Radio Classique avec David Abiker.
Les voix de l'économie sur Radio Classique à 7h10. François, vous recevez le directeur général de l'Agirc-Arrco.
Bonjour François-Xavier Celleret.
Bonjour François Geffrier.
L'Agirc-Arrco, c'est la retraite complémentaire des Français, du privé, les salariés du privé. Avec de bons résultats publiés hier, vous avez dégagé 4 milliards 300 millions d'euros de résultats techniques, c'est-à-dire plus de recettes de cotisations que de pensions versées. Et ça n'est pas lié à la réforme des retraites de 2023 à ce stade.
Effectivement, ces résultats positifs, ils sont liés d'abord à la qualité de gestion des partenaires sociaux. Ils pilotent l'Agirc-Arrco depuis 1947. Et donc, quand les partenaires sociaux pilotent l'Agirc-Arrco, ils le pilotent dans la durée. Un régime de retraite comme le nôtre, on le pilote à 4 ans et à 15 ans. Donc ça, c'est déjà un premier élément, c'est la qualité du pilotage des partenaires sociaux dans la durée. Le deuxième élément, les résultats de cette année, ils dépendent aussi à la fois de notre environnement économique, à la fois le fait qu'il y ait eu des créations d'emplois. Alors, moins de créations d'emplois en 2023 qu'en 2022. Il y en a eu 200, il y en a eu un peu plus de 200 000, là où il y en avait eu 600 000 en 2022. Il y a eu aussi des augmentations de salaires liées à l'inflation. Ça, c'est la partie recettes. Et puis, sur la partie dépenses, il y a à la fois leur décision de revaloriser les retraites, et en 2022 et en 2023, près de 5% chaque année. Et puis, il y a l'augmentation du nombre de retraités, puisqu'on est encore dans des générations du baby-boom. Et aujourd'hui, il y a une formidable bonne nouvelle. Nous sommes de plus en plus nombreux à vivre de plus en plus longtemps.
Et donc, c'est parce que les partenaires sociaux ont décidé d'augmenter les retraites de 4,9% que ces résultats sont certes excédentaires, mais moins élevés qu'il y a un an.
Oui, ils sont moins élevés qu'il y a un an, mais quand ils ont pris leur décision, ils se sont assurés qu'ils pouvaient à 15 ans garantir le paiement des retraites. Ça, c'est les chiffres que vous avez évoqués, ce sont les chiffres de l'excédent technique. Mais il y a un autre élément qui nous sert pour le pilotage, c'est le montant de nos réserves. Le montant des réserves,
il est 78 milliards et demi.
Alors, certains nous disent toujours, mais est-ce que c'est beaucoup? Alors, on peut vous dire certains nous disent que c'est beaucoup. Et certains nous disent, et nous répondons toujours, elles sont nécessaires et suffisantes. Pourquoi nécessaire et suffisante? Puisque on est un régime de retraite en répartition. Donc les résultats de l'année, c'est les cotisations, c'est nos cotisations en tant qu'actifs qui permettent de payer les retraites de l'année. Mais on sait bien qu'un régime comme le nôtre, c'est comme un porte-avions, ça met du temps à tourner et donc on a besoin de réserves pour amortir les aléas de l'économie et de la démographie. Puis dernier point,
vous êtes d'ailleurs obligé d'avoir 6 mois de réserve.
Exactement, dans notre règle d'or que les partenaires sociaux ont fixé, on a sur un horizon de 15 ans d'avoir toujours au moins 6 mois de réserve.
Et là c'est quoi, vous avez 9
aujourd'hui, on est un peu plus de 9 points de réserve. Aujourd'hui, nous avons un peu plus de 9 points de réserve, mais il faut se rappeler quand même que
vous avez un peu des réserves sur la réserve.
Non, on n'a pas de réserve pour la réserve parce que quand on projette à 15 ans, on a besoin des 6 mois. Des 9 mois, parce qu'on pourrait être toujours dans 6 mois et dans 15 ans. Oui. Et puis surtout, il faut toujours se rappeler qu'à l'Agirc-Arrco, nous avons 59 millions de clients. On a les 14 millions de retraités, on a les cotisants de l'année, mais en tout, on a 45 millions d'actifs qui ont des droits chez nous. Et la somme...
Oui, qui un jour seront retraités, voilà. À qui vous devrez de l'argent.
Et la somme de tous ces droits futurs à honorer, c'est 3 200 milliards d'euros.
C'est-à-dire juste pour les actifs d'aujourd'hui.
Actifs et retraités d'aujourd'hui. Ouais. Sur les 40 prochaines années, c'est 3 200 milliards d'euros. Et donc, pour honorer ces 3 200 milliards d'euros, on a à la fois besoin de la solidité, de la robustesse de la répartition, mais aussi de ses réserves. Et oui, ces réserves, c'est un peu plus de 2% de ces 3 200 milliards. C'est pour ça que nous disons, pour un régime en répartition comme le nôtre, elles sont nécessaires et suffisantes. Et puis enfin, ces réserves, elles sont investies. Elles ne dorment pas. Elles sont investies dans l'économie française, dans l'économie européenne. Elles sont investies dans les entreprises. Elles sont investies sous forme d'actions et sous forme d'obligations.
Comment se passe d'ailleurs ce pilotage? Qui les décide de les affecter où, comment?
Alors justement, ces réserves, les partenaires sociaux, quand on les affecte et on confie, dans notre langage, on confie des mandats de gestion aux grands gestionnaires d'actifs qu'on remet régulièrement en concurrence parce qu'on doit tous garantir qu'elles sont gérées au mieux, elles sont investies, donc je le disais, en actions et en obligations françaises et européennes et on confie des mandats de gestion, des mandats d'actions, des mandats à obligations à tous les grands gestionnaires d'actifs, les grands gestionnaires d'actifs de la place de Paris et européens.
C'est très important tout ce que vous venez de nous dire à la fois sur la gestion par les partenaires sociaux, c'est-à-dire syndicats et patronats, et aussi à la fois la question des réserves, puisqu'il y a tout ce débat en ce moment, tous nos auditeurs ne le savent pas forcément, mais en gros, il se dit que l'État aurait envie d'étatiser un peu l'Agirc-Arrco ou de prendre dans la caisse comme s'il y avait un trésor de guerre. Et en fait, ce que vous nous dites ce matin, avec cette espèce de démonstration de bonne gestion, c'est plutôt que d'étatiser l'Agirc-Arrco, il faudrait que le régime des retraites de base soit géré comme l'Agirc-Arrco.
En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que...
Alors qu'aujourd'hui, il a du déficit.
Voilà. Il y a quelques années, quand Didier Migaud présidait la Cour des comptes, il disait l'Agirc-Arrco, c'est un exemple de cogestion à l'allemande qui marche dans notre pays. Par la négociation, les partenaires sociaux pilotent dans la durée et ils ont des résultats.
Donc autrement dit, MEDEF et CGT sont copains dans la vraie vie à l'Agirc-Arrco.
Je ne sais pas s'ils sont copains, ce que je sais c'est qu'ils travaillent ensemble pour les salariés et les entreprises dans la durée. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, et souvent c'est insuffisamment connu, nous sommes un régime, je l'ai dit plusieurs fois, paritaire, piloté par, autonome. Mais pour autant, parce que nous sommes un régime obligatoire de protection sociale, ces bons, ces résultats positifs, ils profitent à notre pays. Pourquoi? Parce qu'ils viennent en déduction des déficits publics. Ils sont comptabilisés, comme on dit, dans la comptabilité européenne, ils sont comptabilisés dans les régimes obligatoires de protection sociale. Et donc, ces résultats positifs de l'Agirc-Arrco, ils sont positifs pour les salariés du privé, ils sont positifs pour l'économie française, mais ils sont aussi positifs pour notre pays, puisque ces résultats, ils viennent en déduction des déficits publics.
Ça vient amoindrir notre...
Ça vient amoindrir le déficit public. Donc, vous voyez, c'est vraiment une démarche qui est gagnant-gagnant, gagnant pour les salariés du privé, pour garantir cela, gagnant pour l'économie, mais aussi gagnant pour notre pays.
Il y a quand même des questionnements sur un risque démographique. On voit que la natalité baisse, on est à autour d'1,7 enfants par femme aux dernières nouvelles, voire moins. Est-ce que ces réserves et donc ce système risquent de fondre et de se déséquilibrer?
Alors, quand les partenaires sociaux pilotent, quand nous projetons avec eux, on regarde effectivement les éléments de productivité et de démographie. Et effectivement, un régime en répartition comme le nôtre, il est sensible à la productivité et à la démographie. Et donc nos réserves, elles sont là justement pour faire face aux aléas de la démographie et aux aléas de l'économie. Et donc on est amené régulièrement à se dire, mais finalement, est-ce que nos hypothèses que nous retenons sur la productivité, sur la démographie, sur la fécondité, est-ce qu'elles sont toujours adaptées? C'est l'intérêt d'un pilotage dans la durée, c'est que régulièrement nous nous interrogeons sur nos hypothèses, pour ça, et donc nous les revoyons quand cela est nécessaire. Ouais. Mais justement, vous voyez, c'est ce pilotage à 15 ans, avec des réserves, c'est la règle d'or que vous avez rappelée, permet justement d'enjamber les bosses économiques et démographiques. Je pourrais, dernier point, prendre un exemple récent. Au moment du Covid, tout le monde l'a à l'esprit, il y a eu 9 millions de salariés en chômage partiel, du jour au lendemain. Donc, c'est-à-dire que 9 millions de personnes qui n'ont plus cotisé à la Agirc-Arrco, c'est-à-dire 5 milliards d'euros de recettes en moins.
Donc, tout d'un coup, les réserves fondent.
Elles n'ont pas fondu parce que justement, elles étaient là.
Oui.
On les a mobilisées, ça a permis de garantir le paiement des retraites, mais surtout, aussi pour vos auditeurs, ça n'a pas eu d'impact sur les droits des 9 millions de salariés. On leur a attribué les mêmes droits que s'ils avaient travaillé. Donc justement, vous voyez, c'est l'exemple sur le fait que des réserves, c'est utile, c'est nécessaire pour faire face à tous ces événements de la vie et justement de pouvoir anticiper, quand il y a des évolutions de moyen et de long terme, de pouvoir anticiper ces évolutions économiques et démographiques.
Il y a quelques années, avait été mis en place un bonus-malus sur le montant de la pension complémentaire selon qu'on partait en retraite dès qu'on avait l'âge ou si on restait un petit peu plus longtemps, si je dois simplifier. Ça se termine au 1er avril, là tout de suite, lundi. C'est toujours OK d'un point de vue finance?
C'est toujours OK, on l'avait intégré effectivement pour 700 000 personnes qui ont encore un malus aujourd'hui à compter. Alors, le 1er avril, c'est férié, donc sur le 2 avril, sur leur compte bancaire du 2 avril, pour 700 000, j'allais dire retraités, il y aura donc une suppression du malus pour l'avenir, ils retrouveront donc une retraite plus élevée.
Dernière chose, on a vu il y a quelques semaines des fuites de données massives sur des millions de salariés par rapport à plutôt tout ce qui était assurance maladie et complémentaires santé. Est-ce que ça pourrait aussi arriver dans le monde de l'Agirc-Arrco? Qu'est-ce qui fait que nos données sont sécurisées?
Alors peut-être deux éléments. Premier élément, sur ces questions-là, il faut toujours être très humble, parce que ce que je peux vous dire, c'est qu'on est mobilisé. Ce que je peux vous dire, c'est que les données retraite de l'Agirc-Arrco, elles ne sont pas dans le cloud. Elles sont dans un data center en France, opéré par l'Agirc-Arrco, parce que justement, les données de l'Agirc-Arrco, c'est le patrimoine immatériel des Français.
François-Xavier Celleret, directeur général de l'Agirc-Arrco, merci beaucoup.
Merci à vous.
Notre voix de l'économie ce matin en direct.
François, à lundi, décisif pour la matinale de l'économie. Prochain rendez-vous avec l'écho, avec Pierrick Fay à 8h10, qui nous parle de la diversification de Fleury Michon. Dans 3 minutes, les coulisses de la politique. Rien ne va plus entre les macronistes et les républicains, et à l'horizon, la menace d'une motion de censure. 7h21 sur Radio Classique.